Bonne nuit sur France Inter.
Il est 2h du matin, le flash Arthur Fradin. 270 cortèges annoncés dans toute la France pour la fête du travail aujourd'hui, un an après des rassemblements records avec près de 800 000 manifestants en pleine période de contestation contre la réforme des retraites. Entre 120 et 150 000 participants sont attendus cette année. Le 1er mai, date choisie par Jordan Bardella pour présenter les candidats sur sa liste pour les élections européennes. La tête de liste du RN qui fait la course en tête dans les sondages le fera lors d'un meeting à Perpignan cet après-midi. Toujours pas de réponse du Hamas à la proposition de trêve formulée par Israël ce week-end. 40 jours de cessez-le-feu conditionné à la libération d'otages israéliens. L'État hébreu laisse jusqu'à ce soir au mouvement palestinien pour se positionner. Quelle que soit la réponse, Benjamin Netanyahou le dit, avec ou sans accord de trêve, ses troupes vont entrer dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain invite lui le Hamas à accepter la proposition de trêve. Plus de retard, plus d'excuses, c'est maintenant qu'il faut agir, selon Anthony Blinken. Donald Trump condamné à 9000 euros d'amende avant même la fin de son procès à New York. La justice américaine reproche au milliardaire de s'en être pris publiquement aux témoins et jurés en marge de son procès pénal. Le juge menace de l'incarcérer s'il recommence. Les États-Unis où le cannabis pourrait bientôt être reclassé comme une drogue moins dangereuse, jusqu'ici reconnue comme une substance addictive de catégorie 1 comme l'héroïne. Il serait positionné en catégorie 3, là où son classé de nombreux médicaments, alors que près de trois quarts des Américains vivent dans un état où le cannabis est légal. 8 morts dans un restaurant de Beyrouth au Liban après un incendie provoqué par l'explosion d'une bonbonne de gaz. Les victimes ont péri asphyxiées à l'intérieur de l'établissement. Selon un député libanais, le restaurant ne respectait pas les normes de sécurité. Un mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien président de Centrafrique, François Bozizé, visé par une enquête sur sa responsabilité dans de possibles crimes contre l'humanité. À 77 ans et exilé en Guinée-Bissau depuis un an, François Bozizé est à la tête de la principale rébellion centrafricaine. Aucun manquement fautif de la part de l'établissement. Conclusion de l'enquête administrative menée à Montpellier où Samara, 13 ans, a été violemment agressée il y a un mois à proximité de son collège. La mère de la jeune fille estimait qu'il y avait eu un loupé dans la protection de sa fille. Dans cette affaire, 5 mineurs sont mis en examen pour tentative de meurtre. Match nul, 2 buts partout hier soir pour la première demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Les buteurs munichois Leroy Sané et Harry Kane, doublés du Brésilien Vinicius côté madrilienne. Ce soir, place au Paris Saint-Germain qui défie Dortmund à 21h pour la deuxième demi-finale. 2h passées de 3 minutes, merci de nous écouter.
Merci de passer la nuit avec France Inter. Voici maintenant Zoom Zoom Zen.
Ciné-tourisme. Il faut me visiter les lieux où il y a eu des tournages. Mais il n'y a que au Panier qu'ils ont tourné complètement en Borsalino. Après, il y a eu Les plus belles de la vie. Les réalisateurs, ils disent qu'à Marseille, la clarté, la lumière, elle est incroyable.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Une heure chaque après-midi pour mieux comprendre le monde qui nous entoure sans jamais oublier d'en rire. Et aujourd'hui du rire, il va y en avoir en veux-tu en voilà, puisqu'on va enfin comprendre pourquoi Manon Mariani a choisi comme dernière destination touristique ce week-end la ville de Lourdes. Un choix qui avait stupéfait tous ceux qui la connaissent bien et qui avaient du mal à croire à l'hypothèse d'une illumination spirituelle. Comment ça se serait passé d'ailleurs, comme Bernadette Soubirous, il y a un siècle, Manon aurait entendu une voix qui serait sortie de son verre magique de l'holocoté après un 12e porto pour lui dire
« Manon, je crois que tu as trop bu. Il est temps de retrouver le chemin de la morale. »
Et donc, elle aurait pris un aller-retour pour Lourdes comme ça? Non, le scénario est peu probable. Il y a certainement une autre explication plus prosaïque. Mais avant de la découvrir, penchons-nous sur cette statistique qui, moi, m'a étonné. D'après l'organisme Tendance Hôtellerie, un organisme qui a pignon sur rue et dont je ne saurais remettre en cause le sérieux, les contenus audiovisuels visionnés sont la deuxième plus grande source d'inspiration pour partir en voyage après le bouche à oreille. Oui, aujourd'hui, ce sont dans les films qu'on voit, les séries qu'on dévore, qu'on pioche, visiblement, nos idées voyagent. D'où l'idée de zoomer cet après-midi sur un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui a été, on va dire, décuplé par Netflix et consorts, le ciné-tourisme. Aussi appelé set-jetting, quand on choisit de partir en vacances à Dubrovnik pour s'imprégner de l'ambiance Game of Thrones, en Nouvelle-Zélande pour les fans du Seigneur des Anneaux, ou quand on va prendre un café dans le même troquet qu'Amélie Poulain sur la butte Montmartre, et encore quand on réserve chez Blériot pour voir en vrai le comptoir sur lequel Cyril Lacarrière écrit « C'est d'où ça sort ». Alors, le cinétourisme n'a-t-il que des vertus ou bien commence-t-il à se retourner contre certains lieux menacés justement par le surtourisme, comme Blériot ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
On y va demain d'ailleurs.
Bon, c'est réservé.
Oui, c'est vrai, c'est réservé, c'est une bonne chose. Bonjour. Permettez qu'on accueille l'invité. Pardon. Ou on reste dans notre entre-soi. Bonjour Didier Arinaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Didier, vous êtes directeur général du cabinet Pro Tourisme. C'est un cabinet de conseil spécialisé notamment dans le tourisme et la culture. Vous allez nous aider à comprendre cet engouement pour le ciné-tourisme. Vous nous donnerez aussi des petits conseils, des idées voyages sur les traces de nos séries préférées. Juste le temps de vous présenter une grande voyageuse. Cet été, contrevenant à tous les conseils de Jean-Marc Jancovici, elle se rendra en avion en Corée du Sud. Mais le week-end dernier, elle a donc vécu une expérience encore plus dépaysante que la Corée du Sud pour cette parisienne pure jus, un week-end à Lourdes. La raison, il est temps de la dévoiler, elle assistait à un mariage. Très élégante, très élégante dans un déshabillé de satin noir qu'elle avait chiné sur Vinted. Très belle affaire d'ailleurs, puisque c'est une pièce qui n'avait eu que 7 propriétaires avant elle, dont 3 se lavaient régulièrement. Ça Manon, qui a adoré ce mariage, même si elle nous a regretté qu'il y a eu un moment entre 2h12 et 2h17 où, je vous cite, il n'y avait plus de gin sur le buffet, c'était pas poste. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour, en plus j'avais pas mon verre de Lolo côté, donc bon,
ah oui,
c'est
donc
un peu
vous
compliqué.
Saviez pas, vous ne pouviez plus contrôler votre, votre consommation. Ouais. Chaque après-midi, Manon, vous analysez pour nous les tendances, les phénomènes qui montent sur les réseaux sociaux au programme du jour.
Et bah, la série dont tout le monde parle, Mon Petit Reine, qui fait un véritable carton sur Netflix, l'histoire vraie d'un homme qui s'est fait stalker par une femme pendant des années. Une histoire qui passionne les détectives d'internet qui enquêtent pour retrouver les vrais protagonistes. Eh bien, ça commence à dégénérer. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Didier, quand ma mère, de qui il est très proche, a découvert qui likait ses publications sur Instagram, son sang n'a fait qu'un tour. Tu lui diras de me rendre les clés dramatuelles, m'a-t-elle chargé de vous dire. Écoutez, je la comprends un peu. C'est vrai que ce qu'on a découvert sur Instagram hier est choquant, puisque Didier, je peux vous présenter Quentin, lui, le nouveau toy boy d'Amanda Lear. Oh. Amanda, qui, avec son compte officiel, hein, Amanda Lear, a mis des cœurs sur toutes les photos de Quentin déguisées en pilote.
Ah oui.
Toutes. Quelque chose est donc clairement en train de naître. Est-ce qu'on a forcément envie de savoir quoi ? Non.
Ah ben non.
En tout cas, passer de David Bowie à Intérieur Nuit, on lui souhaite bon courage. Bonjour Quentin.
Il y a eu Mathieu Noël entre les deux. Il y a déjà une marche entre les
deux. Elle n'inventait pas de système.
Oui, c'est ça. Elle vous a DM ? Ou pas
elle m'a pas DM, elle m'a pas follow, elle a juste liké deux. Bon bref,
ça viendra.
J'ai quitté Paris ce week-end, j'ai pris la direction d'un lieu hautement cinématographique, Marseille, Le Panier, où a été tourné Borsalino, encore plus belle la vie. Ces ruelles furent mon terrain de jeu pour ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, ce sera le moment pour Manon et tous les gens organisés comme elle de se munir de leur petit calepin, afin de noter, puisque le Zoom Zoom Test sera aujourd'hui un catalogue d'idées voyages liées au cinéma et aux séries. En fin d'émission, c'est Marie Debreuer qui nous rejoindra. Mais Didier Arion, on va commencer par un conseil de pro du tourisme. Bientôt, il va y avoir les grands ponts de mai. Si nos auditeurs et auditrices veulent se rendre sur un lieu de tournage particulièrement surprenant, atypique, peut-être pas trop loin non plus, on reste en France. Est-ce que vous avez des idées, des pistes ?
Écoutez, mon coup de cœur, c'est véritablement le bassin d'Arcachon, avec les petits mouchoirs. Véritablement, l'élément de décor. On n'est pas très loin de cette ambiance, mais l'avantage, c'est à une autre période de l'année, c'est qu'en plus, il n'y a pas tous ceux qui allaient voir le bassin d'Arcachon après les petits mouchoirs. On a vu débarquer un flot continu de Parisiens un peu bobos, et maintenant on les voit moins, ceux-là, donc c'est beaucoup plus agréable, c'est le moment d'y retourner.
C'est le moment de retourner à Arcachon.
Et puis un deuxième lieu qui est absolument extraordinaire, alors pas seulement comme lieu de tournage, parce qu'on ne peut pas dire que ça reste dans les annales du cinéma, avec les visiteurs, mais Carcassonne, qui est un endroit absolument extraordinaire, et surtout avec les enfants, parce que les enfants, ils se font le film lorsqu'ils vont à Carcassonne, et puis pour les parents, ils pourront découvrir les corbières, les vins de corbières, les châteaux Qatar. Donc c'est une autre destination absolument extraordinaire, et d'ailleurs avec des choses absolument fabuleuses. Et puis en plus ça fait le lien entre le cinéma et le vin pour Manon, avec l'œnotourisme, donc véritablement une destination à découvrir.
Cyril est déjà en train de réserver ses billets. Justement, lui, je sais ce qu'il aimerait voir comme lieu de tournage mythique. Je sais, depuis quelques semaines, il se fait plus pressant en me demandant quand je serai dans le sud cet été. Oui, Cyril, rassurez-vous, je vais vous emmener voir la gendarmerie de Saint-Tropez. Je vous prendrai même en photo devant, si vous voulez. On fera un selfie tous les deux. Bonjour, Cyril Lacarrière.
Bonjour, Mathieu Noël. Bonjour à toutes. Bonjour
c'est
à
son
tous.
Rêve, il n'ose pas vous
c'est
le dire.
C'est la meilleure blague.
Alors, Cyril, racontez-nous.
La meilleure blague.
C'est une bonne blague.
En 350 émissions. Non, il a fait mieux, il a fait mieux. Elle est pas mal, mais il a fait mieux. On met des la notes aux blagues blague. Maintenant.
Qu'est-ce qu'on est peu de choses, finalement.
On est peu de choses.
Alors, Cyril, racontez-nous le cinétourisme, d'où ça sort.
Eh bien, j'ai perdu ma feuille.
C'est très drôle. Alors, mais d'où ça sort le cinétourisme? Eh bien, du tourisme, tout simplement, Mathieu.
J'ai perdu une feuille.
Et de la démocratisation du tourisme. Est-ce que tu veux ton. Ah, voilà, voilà ah, échange de feuilles et tout rentre dans l'ordre.
C'est vous
la joie du direct.
D'où ça sort le cinétourisme? Eh bien, du tourisme, tout simplement, et de la démocratisation du tourisme. Remontons en arrière. C'est en Angleterre que le terme apparaît au XVIIIe siècle. Il est traduit en 1838 par Stendhal. Tourism devient tourisme. Et à l'époque, le tourisme désigne les voyages de loisirs à l'étranger. Et si le mot remonte à cette époque-là, c'est parce qu'avant, on ne voyageait pas, ou presque. Et puis même au XIXe, d'ailleurs, c'est surtout l'élite qui voyage. C'est bien, bien plus tard que les choses vont basculer. En 2018, 1 milliard 400 millions de touristes internationaux ont voyagé. Et on en est arrivé là en plusieurs temps. D'abord, après la Seconde Guerre mondiale, on se déplace plus facilement grâce à la voiture. Grâce à la voiture, on voyage. Grâce aux congés payés également. Et puis, les premiers systèmes de réservation apparaissent. C'est la naissance des agences de voyage. Et c'est le début de la démocratisation du tourisme. Les classes populaires commencent à leur tour à voyager.
Et l'autre moment de bascule historique, Cyril, c'est 1985.
Avec la création de la compagnie irlandaise Ryanair. Son premier vol se déroule entre Dublin et Londres. Et à l'époque, Ryanair ne dispose que d'un seul appareil avec des hélices. Les débuts sont difficiles, ouais, c'est vieux. Ryanair décide de changer son modèle et de devenir une compagnie à bas coût, une compagnie low cost. Ça va être une révolution dans le paysage aérien européen. En 1997, Ryanair permet de rejoindre Dublin et Paris, enfin Beauvais, pas vraiment Paris, qui soudain devient un aéroport parisien. À partir des années 2000, le low cost fleurit dans tous les pays et c'est comme ça qu'on en vient à voyager pour une bouchée de pain. C'est cette démocratisation générale du voyage qui va permettre d'aller partout facilement et donc, pour retomber sur nos pattes, de pouvoir nous rendre sur les lieux de tournage de nos films et de nos séries préférées. C'est comme ça qu'un jour la Marianoche s'est envolée pour Evanston dans l'Illinois sur les traces de Lindsay Lohan, l'héroïne fétiche de son film fétiche Lolita malgré moi. Quentin, lui, est allé à Berg après avoir vu Bienvenue chez les Ch'tis. Il y est allé avec la fourgonnette des Cafés Richard et il a été évacué par la police après avoir cherché en vain Lynn Renault. Bref, on l'embrasse. Bref, qu'est-ce que le cinétourisme représente aujourd'hui pour l'économie du tourisme? Quel rôle jouent les plateformes de vidéos? Est-ce que cette médiatisation ne se retourne pas contre ces lieux? Faut-il tout réguler? Pourquoi Mathieu et moi avons-nous décidé de passer notre 25 décembre aux eaux de Vincennes? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Très belle référence, Cyril. Merci beaucoup, Cyril. Didier Arino, dites-nous. Quoi?
Non, non, rien.
Tu l'as, la référence.
Le Père Noël est une ordure.
Le Père Noël est une ordure, évidemment. Est-ce qu'il y a un lieu, Didier, qui a été une sorte de précurseur, un lieu pionnier pour le cinétourisme, là où les pèlerinages ont commencé, en quelque sorte?
En France, on peut dire Saint-Tropez.
Oui, c'est vrai.
Saint-Tropez, avec Brigitte, fameux Saint-Tropez. Avant les gendarmes à Saint-Tropez, il y avait accessoirement le film avec Brigitte Bardot. Et il y a eu toute une série d'ailleurs, et à partir des années, à partir de 55-56, il y a eu tout un développement de Saint-Tropez. Et pourtant, la promotion de Saint-Tropez au travers de la peinture se faisait du temps de Matisse, de Bonnard, mais bien évidemment, ce qui fait qu'une destination, alors on parle de cinétourisme, c'est pas nouveau, ça existe depuis, on a juste donné un nom anglais, ça fait mieux, hein, avec le set jetting, hein. D'ailleurs ça fonctionne aussi avec jet setting, hein, dans certains, ça fonctionne dans l'autre sens, et Saint-Tropez ça a été véritablement le développement de la destination. Il faut dire que quand les destinations perdure, il y a une raison, c'est que ce sont de belles destinations.
Oui, c'est beau aussi, au-delà des films.
L'Irlande du Nord, avec Game of Thrones, bien évidemment, il y a un afflux de fréquentation. Il faudra voir si dans 15 ou 20 ans,
ça perdure. Alors que la gendarmerie de Saint-Tropez, elle sera toujours là, elle sera toujours visitée chaque été.
Mais il y a un élément qui est extrêmement important, regardez, c'est à partir du moment où il y a un mythe qui se crée autour d'une destination, tout ce qui peut être sujet à moquerie, et notamment les gendarmes de Saint-Tropez, n'impacte pas réellement la destination. Donc il y a une espèce de... Le cinéma amène véritablement à la création de véritables mythes. Et puis dans d'autres cas de figure, et c'est le cas de Marseille, on voit que cette communication positive de Plus belle la vie permet de compenser aussi une communication extrêmement négative, notamment au travers de l'actualité, où sinon Marseille apparaît comme une ville abominable, notamment les quartiers nord, avec toutes les diffusions, tous les reportages qui sont faits. Et donc c'est aussi quelque part une façon de redonner de la valeur à une destination qui pouvait en perdre, du fait d'ailleurs de beaucoup d'a priori, souvent.
Et on va en reparler, Didier, parce que vous avez
répondu à toutes les questions.
Oui. Toutes les questions qu'on avait prévues dans l'émission, mais comme vous êtes bon, ça vous permettra à mon avis, on va encore relancer. Alors là, ils ont déjà lancé la musique, je peux même plus faire mon lancement, du coup, très bien, ben, on écoute Nirvana, alors About a Girl sur Inter.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Et si voir Vincent Cassel chevauchant un bel étalon dans Les Trois Mousquetaires vous donnait envie de visiter la Creuse ? Oh oui, s'exclame Manon, preuve que le ciné-tourisme est un phénomène en pleine expansion. Voyager pour découvrir les lieux de tournage de nos films et nos séries préférées, c'est une vraie tendance. On en parle avec vous, Didier Arino, professionnel du tourisme. Est-ce que vraiment le cinéma, les séries ont le pouvoir magique d'attirer les touristes là où il n'y en a pas ?
Oui. Le cinéma, les séries ont ce pouvoir magique, en tout cas auprès des fans, parce que il y a plusieurs types de ciné-tourisme. Il y a ceux qui vont dans une destination et qui se disent « Tiens, ça serait intéressant d'aller voir le lieu de tournage. Hein, » On passe en Languedoc-Roussillon et on décide d'aller voir la plage de Gruissant où a été tournée 37.2 le matin. Mais on ne décide pas d'aller à Gruissant pour 37.2 le matin, en tout cas rarement. En revanche, il y a tous les fans, et avec la série Game of Thrones, on a eu véritablement un phénomène de gens qui choisissaient leurs vacances par rapport au lieu de tournage. D'ailleurs, c'était même plus des vacances, c'était une forme de pèlerinage vers ces destinations. Et donc, on a vu émerger...
Didier, vous citez Game of Thrones, il y a des paysages qui sont magnifiques, donc on comprend qu'on a envie de les voir. On parle au-delà des paysages de la nature, il y a Dubrovnik, par exemple, en Croatie, c'est une belle ville. Est-ce qu'il y a des lieux moches qui sont devenus des lieux de pèlerinage simplement parce qu'ils apparaissent dans un film ou une série ?
Alors, c'est plus rare, parce que les lieux moches, bizarrement, le beau se vend mieux que les endroits horribles. Mais en revanche, ça permet aussi de donner une autre ampleur à des lieux qui apparaissaient comme des lieux banals. Mmh. Et on le retrouve, regardez en ce moment, notamment avec la plage de la Grande Motte, où il y en a énormément qui viennent pour les séries télévisées, avec un si grand soleil, et avec notamment le restaurant Le Sauvage. Donc ils vont à la Grande Motte pour voir le restaurant Le Sauvage. Ça vous avait échappé, je le comprends.
On plaisantait tout à l'heure, mais Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, ça a mis quand même de la lumière sur un village du Nord qui n'était pas non plus, sur le papier, un village extraordinaire.
Oui, il y a bien évidemment des cas, mais en règle générale, on voit bien qu'il y a des phénomènes qui sont des phénomènes ponctuels. Mmh. Ce qui fait qu'une destination devient mythique, et puis il y a un phénomène de suiveurs, hein, d'ailleurs, comme les médias. Regardez, le ciné-tourisme, on n'en parlait pas. Et puis on décide de créer des tendances. Alors on a dit, il y a la tendance du ciné-tourisme, mais cette tendance, elle existe depuis
bien
longtemps.
Oui, mais c'est les plateformes, ça a été accentué avec les plateformes.
Ça s'est accéléré avec les plateformes, bien évidemment. Mais moi, j'ai souvenir en 95, en Dordogne, où on faisait une étude et on interrogeait les clientèles. Il y en avait quasiment un sur trois qui nous disait parce qu'il avait vu la série La Rivière Espérance. Et moi, j'ai toujours un énorme retard dans les séries. Vous savez, j'en suis à regarder House of Cards en ce moment.
Ah oui, vous avez un peu de retard.
J'ai un peu de retard. Donc, je ne la connaissais pas. Donc, je ne la connaissais pas. Et véritablement, il y avait un afflux de clientèle vers ces destinations. Et puis, il y a aussi les villes qui avaient conscience de l'importance du cinéma dans l'attractivité de la destination. Et c'est comme ça qu'un département comme la Gironde, une ville comme Bordeaux, a eu énormément de tournages depuis les années 80. La seule différence, c'est que elles n'imposaient rien, elles étaient facilitatrices de tournage, mais elles ne mettaient pas en avant les atouts de la destination en tant que telle. Et ça, c'est la véritable nouveauté.
Ça, c'est en train de changer.
Et ça, c'est en train de changer.
On en parlera tout à l'heure dans le deuxième temps, voir tout ce que le cinéma aussi rapporte, du coup, hein, clairement, aux villes qui se battent, qui sont un peu en compétition pour attirer les tournages. Un dernier mot sur Emily in Paris, ça c'est la série Phénomène, vous la découvrez dans 10-15 ans. Paris n'avait pas forcément besoin d'une série pour rayonner encore plus, mais il y a un phénomène, il y a certains lieux de Paris qui sont plus visités à cause de cette série.
Alors, bien évidemment, ça a eu un impact très important sur la clientèle américaine, notamment. Et en fait, cette clientèle américaine, la façon dont ils visitent les lieux de Paris, c'est un petit peu, ça me fait penser à la clientèle japonaise, il y a une vingtaine d'années, qui avait une image comme ça d'une France romantique, d'une France où tout était apaisé. Et ensuite, ils découvrent la réalité parisienne. Donc d'ailleurs, on a créé, ça a été le syndrome de Paris pour les Japonais. C'est-à-dire que ces Japonais qui sont bien élevés, qui font attention aux autres, ils étaient effrayés par ce qu'ils considéraient, à juste titre d'ailleurs, comme une forme de vulgarité. Pour les Américains, c'est un petit peu différent parce que ils sont très très fiers. Il y a une espèce de fierté d'être venus et d'avoir découvert les lieux du passage d'Emily in Paris.
Et de Lupin aussi.
Et de Lupin. Ah oui, les deux en phénomène. Quand on cumule les deux, on arrive à des plus d'un tiers des clientèles étrangères qui viennent ont vu un de ces deux films. C'est tout à fait considérable.
Lupin que vous connaissez bien puisque vous le découvrirez à l'horizon 2040-2045. Si les lieux de tournage nous fascinent tant, c'est peut-être que le cinéma, c'est le lieu de tous les possibles, un peu comme la garçonnière de Quentin, lui, à Montmartre.
Un appartement.
Un lieu où les fantasmes les plus fous deviennent réalité, comme par exemple lorsque vous scrollez tranquillement sur Insta et que vous recevez cette notification lunaire. Amanda Lear a aimé votre publication.
Celle-ci, j'avoue.
Écoutez-la, c'est elle. Pourtant, Quentin pensait être prêt psychologiquement à ce genre d'événement dernièrement. Alors qu'il venait de poster une photo de lui engoncé dans un cycliste trop moulant, il avait déjà reçu la troublante notification « Willy Rovelli aime votre publication ». Mais là, Amanda Lear, ça va trop loin. Pour vous remettre de toutes ces émotions, Quentin, vous êtes allé interroger les passants dans les rues de Marseille ce week-end.
Je gare la voiture au parking Fossé 1. Je monte quelques marches qui me mènent au panier, le plus vieux quartier de Marseille, les ruelles pavées, étroites, les façades colorées. C'est ici que je rencontre ce monsieur qui remonte la place de l'Anche, polo gris, cheveux blancs et petit chien au bout de la laisse, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom, monsieur ?
Alain.
Alain, vous avez quel âge ?
63 ans.
Qu'est-ce que vous faites là, en ce moment ?
J'ai un commerce.
Qui s'appelle comment ?
Le Lamparon.
Un restaurant où je me pose pour prendre un café. Le Vieux Port n'est pas loin et je fais lire à Alain notre mot du jour.
Ciné-tourisme ? C'est quoi, ciné-tourisme ? Il faut me visiter les lieux où il y a eu des tournages. D'après moi, hein, je sais pas.
Est-ce que Marseille, c'est ça ?
Oui, il y a eu des milliers de films, mais bon, que des morceaux. Mais il n'y a qu'au panier qu'ils ont tourné complètement en Borsalino.
Alain Delon, Jean-Paul Belmondo.
Après, il y a eu Les plus belles de la vie. Les réalisateurs, ils disent qu'à Marseille, la clarté, la lumière, elle est incroyable.
Une lumière incroyable que j'observe. Je lui demande si je lui donne un budget illimité, sur quel lieu de tournage il partirait voyager, Alain ?
À Nouvelle-Zélande. Voir le village des Hobbits.
Ah oui.
Vous ne m'attendez pas à cette réponse.
Et laquelle ?
Je ne sais pas. Pas celle-ci. Alors que le Mistral souffle un peu, Corinne et Tilly, mère et fille, cessez à ce que je leur fais lire.
Ciné-tourisme. C'est des projections en plein air.
Pour les touristes.
Non, c'est les gens qui voyagent en fonction des lieux de tournage des films.
Ah, ok. Il y a ça aussi pour des lieux littéraires.
Ouais. Par exemple, Da Vinci Code, ils ont développé tout un circuit touristique pour découvrir les lieux du roman à Paris.
Le tourisme littéraire rejoint un peu notre sujet du jour, à ceci près que l'imaginaire est peut-être encore plus fort derrière un livre. Je demande à Tilly où elle pourrait partir faire du ciné-tourisme.
Moi, je partirais, alors le film en particulier, je ne sais pas, mais j'irais en Arizona, tu sais, dans les déserts, les canyons, là, les grands canyons, où il y a eu des westerns. Mais tu vois, c'est pour le lieu, je ne saurais pas te dire exactement quelle auberge, quel saloon, quel. Mais là-bas.
Ennio Morricone pour le bon, la brute et le truand. Les grands espaces des westerns, parfois même complètement tournés en studio, inspirent quand même au voyage. Tristan et Cléo ont 19 et 16 ans. Ils m'écoutent parler de ciné-tourisme et de ce qu'il peut apporter au lieu de tournage. Pour ce qui est de Marseille, Tristan n'est pas d'accord.
Plutôt l'aspect négatif en ce moment, les films, je trouve.
Ouais,
Bac Nord, etc., c'est plutôt négatif comme film.
Celui avec Matt Damon aussi.
Ouais, Matt Damon, Stillwater.
Aussi, ouais.
Je trouve que c'est plutôt des films qui sont pas l'aspect positif sur Marseille. À l'époque de Taxi ou IAM, où là, par contre, c'était vraiment positif.
Ouais.
Et c'était vraiment une bonne image de Marseille. Ouais.
C'est pas totalement faux. Est-ce que les films peuvent donner une vision négative d'une ville ? Allez, si je leur donne l'ACB de France Inter, sur quelle terre de tournage ils vont ?
Moi, je pense que je serais peut-être allé dans le village de Call Me By Your Name. En Italie.
Je sais pas du tout. Je pense peut-être dans des lieux de tournage de films à la Guy Ritchie, comme The Gentleman ou Snatch. Un peu la campagne anglaise un peu profonde. Mais sinon, dans la beauté, je pense Tokyo. Tokyo, c'est une place où il y a beaucoup eu de films Lost in Translation. La nouvelle série Canal+, la Tokyo Vice, ça se passe à Tokyo, ça donne un bel aspect. Donc peut-être Tokyo, ouais.
Je descends maintenant vers le Vieux-Port. Cet ado m'arrête avec son survêt rouge, son enceinte connectée. Salut.
Salut.
C'est quoi ton prénom ?
Joey.
Joey, t'as quel âge ?
J'ai 13 ans.
Pourquoi t'es venu vers moi ?
Ah, je sais pas, je vous ai vu avec le truc inter. Moi, je connais mon père, il écoute.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
Je vais vous montrer ce que je sais faire en rap.
Attends, tu nous fais un freestyle, là ?
Ouais. Yo. Dis-moi que t'es prêt à répéter dans Paris. Je veux pas ton love, je veux que t'es love. Je veux pas ton love, je veux que t'es love.
Et oui, Marseille, c'est aussi des petits qui rappent partout dans la ville. Et ce n'est pas qu'au ciné. Je lui fais lire le mot du jour.
Ciné-tourisme. C'est un cinéma touristique.
Tu veux dire un cinéma qui fait que des vidéos de tourisme ?
Ouais.
Ce serait chiant, non ?
Ah, en vrai, ouais, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a un vrai film avec un vrai endroit où t'aimerais aller ?
Oui, c'est à Los Angeles. C'est dans Transformers, là, avec les voitures et tout, là, qui se transforment et tout. Là, oui, vous voyez, par terre, il y a les étoiles.
Hollywood Boulevard, peut-être.
Ouais,
oui,
c'est
ils sont par terre de noms de stars. Ma dernière rencontre, c'est Eva, elle est prof d'art plastique.
Ciné-tourisme. Non, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool parce que de base, le cinéma, ça nous fait voyager dans d'autres univers et en même temps, ça peut là nous. En faisant du tourisme, du ciné-tourisme, ça peut en même temps nous rattacher à la réalité. Non, c'est cool. Hein. C'est cool. En fait, le dernier film que j'ai vu, c'est Dali de Quentin Dupieux et ça donne envie d'aller un peu en Espagne. Tout l'univers de Salvador Dali, en même temps, ça donne envie d'aller faire son musée à Figueras, de voir tout ce qu'il y a sur place là où il a vécu. C'est plus par rapport à l'artiste, là, peut-être qu'au tournage. Ça donne envie, en tout cas, ça donne envie de se projeter en plus dans le film, même après l'avoir vu.
Tomber amoureux d'un film, de son lieu de tournage et prolonger un peu l'aventure cinématographique en marchant dans les pas de celles et ceux qui lui ont donné vie. Alors, vu l'engouement et le succès des séries et des films, l'avenir est-il dans le ciné-tourisme ? C'est sans doute un euphémisme.
Merci Quentin. Et à l'occasion, vous m'en direz plus. Vous me direz comment se procurer cette fameuse CB de France Inter.
Oui, c'est la carte bleue.
Personnellement, je n'y ai pas accès.
Faites pas encore les notes de frais.
Très intéressant. Quand les lieux de tournage deviennent lieux de pèlerinage, on zoome cet après-midi sur le phénomène du ciné-tourisme avec vous, Didier Arino, directeur général du cabinet ProTourisme. Qu'est-ce que vous pensez de la conclusion de cette prof qu'on vient d'entendre ? On poursuit l'imaginaire du film en se rendant sur place, comme si on prenait physiquement part à la fiction qui nous plaît.
Alors, d'abord, il y a de moins en moins la notion de voyage dans le tourisme, puisque les gens, avant, organisent leur séjour. Et donc, ils ont tout vu. Déjà, ils sont passés par Internet, ils ont réservé leurs hébergements.
Ils savent tout avant
même. Ils ont regardé les avis clients.
Oui, c'est vrai.
Y a un côté un peu besoin de tellement de se sécuriser qu'on découvre plus grand-chose. Donc, ça fait partie, justement, dans le ciné-tourisme, du prolongement d'un rêve, d'une histoire qu'on se raconte. Et certains s'identifient aux personnages, ont besoin de continuer à vivre cette vie imaginaire. Et donc, on les retrouve comme ça dans les lieux. Mais ça montre à quel point, d'ailleurs, le secteur du tourisme a perdu de cette dimension de rêve et de découverte. À force de vouloir tout maîtriser, eh bien, on en perd la découverte. Alors, ce qui remplace d'ailleurs cette découverte des lieux, ce sont les rencontres. Et c'est d'ailleurs intéressant au travers des témoignages. Ce que les gens aiment aussi à Marseille, c'est pas seulement les paysages, le Mucem ou autre, c'est de rencontrer des Marseillais.
L'atmosphère du lieu,
et qui est une atmosphère réelle, parce que, avec les bons côtés et les mauvais côtés de Marseille, mais il n'empêche que les Marseillais ont une culture, ils sont aussi le réceptacle d'un patrimoine, de traditions, de savoir-faire que l'on vit, et ça fait partie de la découverte.
Vous tirez beaucoup de positifs, mais il y a quand même Tristan, qui d'ailleurs nomme Bac Nord, Stillwater, des films qui peuvent, à l'inverse, nuire à l'image d'un lieu, d'une ville. Vous le voyez aussi, vous l'observez, ça ?
Oui, il y a une destination qui est assez mythique au niveau cinéma, c'est par exemple Tanger. Il y a eu quantité de films qui ont été tournés à Tanger, mais à chaque fois, c'est dans une atmosphère qui est un peu inquiétante, ce sont des films relativement sombres, ou alors les passages qui sont tournés ne mettent pas en valeur la ville, et donc il y a assez peu de gens qui se disent « Tiens, j'ai envie de partir en vacances à Tanger ». Donc on a, ça dépend du type de film, même si parfois la volonté pour des destinations qui n'existent pas, regardez Dunkerque par exemple de Christopher Nolan, la ville de Dunkerque a insisté pour que le film s'appelle Dunkerque, parce que au-delà des retombées économiques, c'est aussi un focus sur une destination qui n'apparaissait pas comme une destination touristique.
Et si Netflix avait remplacé le guide du routard ? On continue de zoomer avec notre invité Didier Arino sur l'engouement du ciné-tourisme quand les lieux qu'on voit dans les films et les séries décident de nos prochaines destinations voyage. On va notamment voir comment les régions se battent désormais pour accueillir ces tournages. Juste après, un Zoom Zoom Test consacré aujourd'hui à ces villes qui disent merci à Netflix, mais aussi à celles qui lui disent
« Fuck you,
fuck you, fuck you !»
Et oui, parce que trop de fans de Game of Thrones, ça peut vous transformer une jolie petite ville en enfer touristique. On en parle juste après l'impératrice Meda Igual sur France Inter.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et c'est ici, dans cet immeuble du 11e arrondissement, qu'une nuit de juin 2009, après 14 gin tonic, Manon Mariani a composé « Caresse du désir ». Oui, oui, faites-vous plaisir, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. Mais il y en a d'autres, comme nous allons le découvrir dans le Zoom Zoom Test. Un quiz consacré évidemment aujourd'hui au haut lieu du ciné-tourisme. Et on commence par le film qui a marqué la jeunesse de Cyril Lacarrière, qui, adolescent, ne rêvait pas de devenir journaliste ou agent de sécurité ou patron de vidéoclub, qui sont plus tard ses métiers successifs. Non, il rêvait, comme tout jeune des années 70, de devenir un Jedi. Je peux vous dire qu'il en a passé des nuits à se donner du plaisir en pensant à Carrie Fisher. Et pourtant, pas une fois, il ne s'est demandé où avait été tourné Star Wars. En tout cas, le premier épisode, à savoir le...
Quatrième.
Le quatrième, bonne réponse
un point,
de Quentin.
Déjà.
Non, c'était pas une question, c'était juste comme ça.
Mais quoi, la menace fantôme?
Oh la vache, non pas du
c'est
tout.
C'est pas ça,
oh la vache. Alors un point au moins. Donc là, bon, alors là, ah, un point, Paul.
J'ai le droit là.
Vous auriez dû vous taire, Manon.
Ne rien dire, oui.
Donc
bon,
un point pour Quentin. Manon, Quentin, vous connaissez la célèbre planète désertique Tatooine, mais d'après vous, qu'est-ce qui a inspiré ce nom à George Lucas?
Tatooine.
Qu'est-ce qui a inspiré ce nom à George Lucas? Un village marocain nommé Tatouina? Un village tunisien nommé Tataouine? Ou un copain tunisien nommé Tataouine?
Mais j'ai dit avant.
Je crois que je suis
en régie.
Je suis devant.
Et en régie, on me dit Quentin. Désolé, ah, Manon. On me dit Quentin, c'est comme ça, oui. Le tournage de la Guerre des Étoiles, épisode 4, a duré 6 mois. 5 mois, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté un petit mois.
Ça n'aurait pas été très grave, de toute façon.
En 1976, principalement filmé en Angleterre, le film passera également par la Californie, le Guatemala, la Turquie et donc la Tunisie, même si ce n'est pas à Tataouine même que les scènes dans le désert ont été tournées, mais plutôt du côté de Djerba, Nefta, et un autre site qui se visite encore aujourd'hui, car on y trouve les fameuses maisons troglodytes de Tatooine. D'après vous, ce village, c'est Nirvana, Rock de Casbah ou Matmata?
C'est... Ah non, c'est passé.
Vous avez dit Matmata.
Mais hier, j'ai dit dans l'Open Space, c'est pour ça que vous avez...
Ah, Nirvana.
C'est une bonne réponse de Quentin.
Non,
évidemment, Matmata.
Ah, on va l'écouter.
Hey, comme le groupe préféré de Manon. Mais attention, les amis, reconcentrez-vous. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre en Nouvelle-Zélande fut longtemps la réponse polie qu'on apportait à un interlocuteur qui nous demandait pourquoi on irait se fader 23 heures d'avion pour voir des moutons alors qu'on allait même dans l'Aveyron. Mais ça, c'était avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. La saga de Peter Jackson qui, d'après vous, a fait bondir le tourisme en Nouvelle-Zélande de 20%, 30%, 40%.
C'est...
Manon a été... Rien que pour la...
Merci.
Non, mais pour l'énergie, je dirais Manon. Magnifique. Elle a crié plus fort que vous. Et oui, c'est pas un petit frisson, c'est une explosion touristique qui a provoqué le Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande entre 2000 et 2006. Le tourisme est, depuis 2012, le deuxième secteur le plus important du pays, carrément. Il faut dire que vous pouvez vous balader dans la terre du milieu, pousser jusqu'au Mordor et même entrer dans les maisonnettes champêtres du village Hobbit qui a été préservé à l'identique. 4,7 étoiles sur TripAdvisor. Attention quand même à bien vous baisser, indique plusieurs commentaires. Se baisser pourquoi, écrit pour sa part Quentin L, Paris 18e.
Attendez, vous avez été figurant.
Mais attention, top. Oui, alors ouais, moi, hein, non.
Mais si,
moi,
toutes
les scènes ont été tournées en studio à Paris, en ce qui me concerne pour moi.
Saruman, tu rigoles ou quoi?
Vous le savez, puisque vous buvez mes paroles et que je l'ai dit en début d'émission, la jolie ville croate de Dubrovnik est aujourd'hui dépassée par la folie Game of Thrones, jusqu'à 10 000 visiteurs par jour en été pour ce lieu de tournage mythique qui n'est autre que King's Landing dans la série. Les locaux se plaignent évidemment que dans les boutiques, les souvenirs de Boule à neige Jon Snow aient remplacé les traditionnels jouets en bois croates, mais pourtant, ils ne sont pas les plus mal lotis. Car en Angleterre, un acteur de la série a lui-même créé un lieu ciné-touristique étonnant. Une boulangerie baptisée You Know Nothing John Duff, en référence à l'une des citations cultes de la série au fait que Duff veut dire pâte en anglais. Un peep show baptisé You Blow Nothing John Snow, en référence, enfin, bref.
Bon, ouais,
il est ou casse pas. Un bar gay baptisé Grinder is Coming.
C'est...
Pour vous, c'est le bar gay tout de suite.
Ouais.
Tout de suite, on y est. Grinder is
J'adore
coming.
J'adore Grinder is coming, c'est stylé.
C'est une mauvaise réponse.
Ah mince.
Ah, ça a.
Réponse A.
Effectivement, une boulangerie Game of Thrones a été créée par un acteur de la série, en l'occurrence Ben Hawke, qui joue le rôle de Hot Pie, un jeune orphelin dont le rêve est de devenir apprenti cuisinier. Un rêve devenu réalité en juillet 2017. Enfin, attention. D'après vous, quel film ou série a permis de relancer le tourisme en Roumanie, entraînant une augmentation de 55% des recherches d'hôtels?
Je l'ai.
Est-ce...
Allez-y. Hein.
Je laisse du suspense.
Ouais.
Est-ce Dracula de Francis Ford Coppola en 92, car de nombreuses scènes ont été tournées dans les Carpates? Barbie de Greta Gerwig en 2023, car étonnamment, de nombreuses scènes ont été tournées à Bucarest? Ou Mercredi de Tim Burton en 2022, car Tim a toujours adoré la Roumanie?
Ah, c'est...
Ah.
Très bonne réponse. Alors, je vous conseille plutôt, quand vous voyez Didier qui fait des petits clins d'œil et qui dit C à Manon, il vaut mieux opter pour la réponse C.
La Roumanie aussi.
Très bonne réponse. Très bonne réponse. La Roumanie, pays merveilleux à la vocation duquel longtemps la seule image qui nous venait était l'exécution de Ceausescu, peut dire merci à la série de Tim Burton Mercredi. Hein, les cinétouristes adorent tout particulièrement la Casa Monteoru, une maison historique au cœur de Bucarest utilisée lors des scènes où Mercredi et ses camarades déambulent dans Nevermore.
Heureusement qu'il y a marqué musique polonaise en face à moi.
Victoire de Quentin, lui. Qu'est-ce que vous racontez, Manon? Mais ne dites pas n'importe quoi. Ici, on est très précis sur les musiques en fonction du pays. Didier Arino.
Oui, on va pas le dire cinq fois.
Merci à tous.
Vous voulez que je le dise encore une fois? Victoire de Quentin, lui.
Merci.
Didier Arino, professionnel du tourisme, est toujours avec nous pour zoomer sur ce phénomène du cinétourisme. Alors, comment ça s'organise, le cinétourisme côté production? Est-ce que, en tant que spécialiste du secteur, vous avez constaté une demande accrue pour accueillir les tournages?
Oui, il y a toute une organisation qui s'est mise en place pour accueillir les tournages du fait des retombées économiques qui sont tout à fait considérables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Marseille, 40% du secteur de l'audiovisuel vivait grâce à Plus belle la vie. Donc ce sont 600 emplois qui ont été qui vivaient de cette série, mais les retombées, si on prend les retombées indirectes et induites, c'est bien plus important que cela. Donc ce sont des dizaines de millions d'euros d'apport dans l'économie locale, et c'est ce qui fait qu'il y a bien longtemps, avant qu'on médiatise le concept de cinétourisme, que des villes, que des régions se sont mis en place des dispositifs pour aider les sociétés de tournage. Alors d'abord en leur facilitant la tâche, en leur donnant un certain nombre de lieux dans lesquels ils pourraient tourner, mais aussi en travaillant sur l'infrastructure, sur les autorisations de tournage. Et c'est ce qui fait qu'on a de nouveau eu des parts de marché que l'on avait perdues pendant des années parce que les tournages à l'étranger étaient beaucoup moins chers, et notamment dans les pays de l'Est ces dernières années. Donc on a dû véritablement avoir une véritable politique, et d'ailleurs il y a un plan France 2030 pour pouvoir accueillir plus facilement encore la production et la réalisation de films sur notre territoire.
Mais concrètement, comment ça se passe? Ça veut dire que les régions, elles draguent directement des cinéastes? Elles draguent des productions, des réalisateurs, des chaînes de télé qui produisent les magnifiques? Comment ça se passe? Il y a des gens qui sont payés dans les régions à l'heure où on se parle pour dire venez chez nous, regardez, c'est super.
Il y a des gens qui sont payés. D'ailleurs, c'est un petit peu comme les congrès et les conventions. Il y a une politique qui est une politique de prospection pour dire regardez, nous sommes la destination adaptée pour vos tournages. On vous facilite la tâche sur tel ou tel point. Et puis, il y a aussi des subventions qui sont données pour la production et notamment pour les séries télé. Vous savez, c'est un petit milieu, donc les choses se savent assez rapidement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une concurrence entre les destinations, parce qu'il y en avait relativement peu il y a une trentaine d'années, et aujourd'hui, chaque destination a mis en place une politique pour accueillir ses tournages de films ou de séries.
Je vois sur TikTok, en ce moment, il y a des tendances énormes, où on voit des milliers de personnes aller dans des petites villes aux États-Unis sur des lieux de tournage, genre The Vampire Diaries, en plus des séries qui sont terminées. Ça devient un peu Disneyland. Est-ce que les réseaux ont aussi un impact en fait dans ce cinétourisme maintenant, parce que les gens le documentent en fait?
Il y a un phénomène d'accélération des réseaux sociaux, et puis il y a des communautés, des communautés de fans, et ces communautés sont extrêmement actives, et c'est comme cela qu'on retrouve un univers avec des gens qui se ressemblent dans leurs attentes, ce qui fait que les destinations, les grandes destinations populaires, elles le sont de moins en moins. On a de plus en plus des destinations comme ça de cinétourisme qui sont très, très segmentées, avec Game of Thrones, on a vu un univers comme ça, gothique, extrêmement fort, qui touche d'ailleurs très fortement les millennials, hein, et beaucoup, beaucoup moins les clientèles de plus de 40 ans ou 50 ans, qui, elles, sont beaucoup plus sensibles au cinéma, mais le streaming, plus les réseaux sociaux, donc il y a un phénomène qui est un phénomène d'accélération, d'ailleurs au risque de voir un afflux considérable de touristes, et donc d'avoir un impact sur le surtourisme, d'ailleurs extrêmement médiatisé. D'ailleurs, là aussi, on parle beaucoup de surtourisme, on parle assez peu de sous-tourisme.
Ah, vous êtes scolaire. Vous êtes, il faudrait plus parler de sous-tourisme.
Ah, mais totalement. 99,5% de notre territoire subit un sous-tourisme. Or, le tourisme, il a un impact tout à fait considérable pour éviter la désertification. Et on a des métropoles qui concentrent les richesses, les flux. Et si demain, on parle de la diagonale du vide, si demain on ne veut pas que nos territoires soient désertés, on a besoin véritablement du complément de l'activité touristique qui permet souvent à la boulangerie, aux pharmaciens, aux bouchers de continuer à vivre dans des territoires de campagne, de montagne.
On vous réinvitera pour une émission sur le sous-tourisme. Hop, une émission de plus dans notre besace. Bien joué Didier. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, Marie Debreur va nous rejoindre pour nous raconter ses dernières expériences ciné-touristiques. Est-ce que ce sera aussi gratiné que la Marianoche à Lourdes? Pas sûr. Entre vous et la ville de Lourdes, Manon, je crois qu'on peut légitimement parler de coup de foudre. Hier, vous nous disiez d'ailleurs, c'est simple, si un jour avec CV on doit quitter Paris, c'est là-bas qu'on s'installera.
Évidemment.
Racontez-nous le moment où vous avez voulu acheter de l'eau bénite. Est-ce qu'il était question de ça?
Non, mais je voulais aller en chercher, mais j'ai pas eu le temps, vous savez.
Une petite gourde d'eau bénite, vous voulez?
Oui,
vous
voulez, oui, oui.
Bah, pour nous en asperger?
Juste à moi,
Il faut partager.
Oui, bah à la place, j'ai perdu mes AirPods, donc voilà, super.
Ça, on en reparlera
mais
demain.
Vous avez fait les petits trains
Manon,
aussi.
Oui,
touristique.
On va faire tout mon voyage à Lourdes.
Non, oui, vous avez raison, ça sera demain. Voilà. Manon, si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles des réseaux sociaux aussi, sauf que vous les pénétrez. Je dis n'importe quoi.
Vous les décryptez,
Mathieu. Je ne voulais pas dire quelque chose de grossier du tout, mais j'ai mal formulé ma phrase. Bref, ce qui est important de retenir à ce stade de l'émission, c'est que c'est l'heure de la veille sanitaire. Ouais. Aujourd'hui, c'est justement une série qui affole les réseaux sociaux.
C'est la série la plus regardée sur Netflix actuellement, Mon Petit Reine, en anglais Baby Reminder. Difficile d'être passé à côté ces derniers temps. Les critiques sont élogieuses et les spectateurs se sont pris de passion pour cette histoire totalement folle. Je vous la résume.
Ah oui.
Mon Petit Reine suit le personnage de Donnie, un humoriste anglais un peu raté qui travaille dans un bar. C'est là qu'il fait la connaissance de Martha, une femme de 20 ans, son aînée, qui va devenir totalement obsédée par lui. Elle va le harceler pendant des années en le bombardant de messages, en allant sonner chez lui, en allant à tous ses spectacles, etc. etc. L'histoire de la série est d'autant plus perturbante qu'elle est totalement vraie. Donnie, de son vrai nom Richard Gadd, est le créateur et l'acteur principal de la série, mais aussi celui dont cette histoire est inspirée. C'est quelque chose d'assez courant dans les fictions, sauf que la passion des fans pour Mon Petit Reine est en train de prendre des proportions incontrôlables sur les réseaux.
Alors, qu'est-ce qui se passe, Manon?
Eh bien, Mon Petit Reine est devenue une véritable obsession pour beaucoup de détectives d'Internet qui cherchent à savoir toute la vérité sur l'histoire. À commencer par trouver les vraies identités des personnes que l'on voit dans la série, notamment la fameuse stalkeuse Martha. Sur TikTok et sur X, beaucoup spéculent en partageant des photos de femmes qui pourraient correspondre, mais le tout sans preuve. Le nom d'une femme écossaise revient assez souvent dans les posts au point qu'elle a été obligée de prendre la parole dans les médias britanniques pour dire que la série parle bien d'elle, mais qu'elle est en fait la victime de l'histoire. Elle dit connaître Richard Gadd, mais ne jamais l'avoir harcelé, et elle précise recevoir des menaces de mort depuis la série sur les réseaux sociaux. Elle dit, je cite, « C'est comme l'affaire Amber Heard Johnny Depp, j'ai l'impression d'être persécutée comme Johnny Depp, je suis victime de gens fous sur Internet. » Alors, je ne pense que c'était pas forcément le bon exemple à prendre, mais ça vous donne quand même une idée de l'ampleur du phénomène. En plus de ça, Martha n'est pas la seule à être recherchée par les voyeurs d'Internet. C'est aussi le cas d'un producteur violeur dont parle la série.
Alors, est-ce que les réseaux sociaux l'ont retrouvé ?
Non, mais certains utilisateurs sont allés fouiller dans le passé de Richard Gadd et ils sont tombés sur un réalisateur anglais, Sean Foley. Pour eux, pas de doute, c'est lui le violeur car tout correspond, les dates comme le physique. Mais accuser une personne d'agression sexuelle juste parce qu'il ressemble à un personnage de fiction, c'est de la diffamation, tout simplement. C'est pour ça que Richard Gadd a dû prendre la parole sur Instagram.
Des personnes que j'aime, avec qui j'ai travaillé et que j'admire, y compris Sean Foley, sont injustement pointées du doigt. Veuillez ne pas spéculer sur l'identité des vraies personnes, ce n'est en aucun cas l'intérêt de notre série.
L'acteur a donc essayé d'éteindre le feu avant qu'il ne soit trop tard, car on le sait, les réseaux peuvent être sans foi ni loi. Il a aussi précisé que certains éléments de sa série avaient été modifiés et que son but était que Mon Petit Reine résonne comme une œuvre artistique et que les personnes impliquées soient protégées. Après, évidemment, je peux comprendre l'envie de savoir ce qu'il s'est réellement passé moi-même. Je suis allée checker si la fameuse Martha était en prison actuellement, mais je n'y ai pas mis le côté voyeuriste des détectives d'Internet. Ils ne se rendent pas compte de la portée de leurs actes et de leurs accusations. D'ailleurs, ce phénomène a un nom, le web sleuthing.
Traduction ?
Sleuth, ça veut dire détective. Donc c'est vraiment l'expression anglaise pour qualifier cette pratique d'aller diguer des informations sur des histoires virales, de vraies, pardon, sur Internet. Xavier Dupont de Ligonnès, l'attentat de Boston, Lucas Magnotta, le dépeceur de Montréal, Tous les faits divers les plus glauques y passent. Ces détectives échangent leurs infos sur Reddit ou sur des sites spécialisés. Ils analysent les moindres détails des affaires. Certains vont même jusqu'à se rendre sur les lieux des crimes pour s'imprégner encore plus de ce qu'il s'est passé. Et forcément, les documentaires des plateformes y sont pour beaucoup. En général, ça rajoute une pièce dans la machine quand il y en a un qui sort. C'est pour ça qu'il y a une obsession en ce moment sur Mon Petit Rennes. La différence cette fois, c'est que c'est une fiction et non pas un doc. Il ne faut donc pas prendre tout ce qui est dit dedans pour argent comptant. Et puis, c'est quand même assez drôle car la majorité des gens sur les réseaux disent que c'est infect d'aller harceler quelqu'un, que c'est malsain, que Martha est folle. Sauf qu'ils font exactement la même chose avec elle. L'histoire de Mon Petit Rennes est certes bouleversante à plein d'égards, mais ce n'est pas la nôtre. Richard Gad ne demande à personne d'aller le venger. Au contraire, c'est son récit, donc laissons-lui.
Mais tout à fait, et merci beaucoup Manon. Respectons évidemment l'intimité des gens. Néanmoins, si parmi nos auditeurs, certains pouvaient enquêter pour savoir si c'est vraiment Amanda Lear qui a stalké Quentin sur Insta, ou simplement le community manager d'Amanda Lear, on y verrait un peu plus clair dans cette sombre histoire.
Demandez-lui, elle vient le week-end prochain,
non ? Oui, probablement. En attendant, restez avec nous, Zoom Zoom Zen continue avec Marie de Brouwer, juste après Baccar, Alive sur Inter. Wanna free my mind, wanna be outside, wanna be alive, pray I'll wake up again. Wanna free my mind, wanna be outside, wanna be alive, pray I'll wake up again. Wanna free my mind. Sunshine is a promise, so I put it in my pocket. Winter turned me rotten, all these seasons I've forgotten. July told me a lie, can't be just crossed again. You was the straw, the bed. Told you tonight wasn't the time. Said your goodbyes to me, it was a sight to see. But what did I expect? Said it with your chest, your eyes wouldn't lie if you want them to. So what did I expect? You said it with your chest, your eyes wouldn't cry if you want them to. Huh? Wanna free my mind, wanna be outside, wanna be alive, pray I'll wake up again. Wanna free my mind.
Zoom Zen sur France Inter.
Zoom Zoom Zen spécial ciné-tourisme entre dans sa dernière ligne droite. Marie de Brouwer nous a rejoint. Et vous Marie, si j'ai bien compris, vous êtes plus tourisme que ciné, c'est ça ?
Mais ouais, je suis pas cinéphile. La dernière série que j'ai matée, c'est Dahmer, sur le tueur en série là, qui a découpé plein de gens. Et j'ai regardé, les billets d'avion pour Milwaukee coûtent un rein. Enfin un rein, c'est façon de parler.
Hein.
Visiter les lieux de son film préféré, je veux bien. Mais mon film préféré, c'est La Marche de l'Empereur. Qu'est-ce que j'ai chialé là, quand l'œuf il est tout gelé. C'est beau et cruel, la nature. Mais c'est chaud pour visiter, non, il y a un aéroport en Antarctique. Je suis pas sûre. Hein. D'ailleurs, il reste de la glace en Antarctique. Je crois que tout est en train de fondre. Sûrement à cause des fans de la marche de l'empereur, d'ailleurs. Hein. 28 heures de vol pour aller voir des œufs congelés, ça fait qu'un bilan carbone. Je viens de fêter les 29 ans, j'ai officiellement l'âge pour congeler mes ovocytes. Là, le retour Paris 18, hôpital Cochin, ça fera moins fond de la banquise. Enfin, pas si je fais vraiment un gosse avec mes œufs. Pardon, attendez. Je me suis paumée dans ma chronique. Tout est blanc aussi, c'est pas facile de s'orienter. Non, non, pas une bonne idée de me faire l'Antarctique cet été. J'ai pas de gosse et je suis intermittente, mais je suis quand même haussienne et je crois que c'est pas la meilleure période. Et puis j'ai entendu dire que les pingouins étaient de vraies pinces. Puis tu ramènes quoi comme souvenir de l'Antarctique? Tiens, Christine, de l'eau. Enfin, là-bas, c'était un bout de banquise, mais bon, avec le vol, ça a fondu. T'as compris, Christine? Le vol qui fait fondre la banquise, la planète qui meurt, bien écrit ce truc, non? Ça va, toi, Christine? Christine, depuis qu'elle est à la retraite, elle se fait le tour du monde de ses films favoris. La Grèce pour Mamma Mia, le Colorado pour Chérie, j'ai rétréci les gosses. Bon, chacun ses goûts. Le Kenya pour Art of Africa. Oui, c'est vrai qu'il était beau, Robert Redford. Par contre, Christine, super hein, d'avoir voté Eva Jolie en 2012, mais peut-être ralenti un tout petit peu sur les miles. T'as quand même 4 petits-enfants qui espèrent pouvoir en boire de l'eau et pas de la banquise. Oh, c'est bien écrit, mais c'est un peu déprimant quand même, cette chronique à l'autre. Je préférais quand elle parlait de cul. Pardon. Surtout que je suis pas irréprochable. Hein. Moi aussi, j'ai la carte du monde avec les gommettes sur les destinations où je suis déjà allée. Vietnam, tchèque, Laos, tchèque, Cambodge, tchèque. Je sais plus si je suis une backpackeuse aventurière ou si je suis un très vieux colon qui regrette l'Indochine. Sauf qu'Indochine, pour moi, c'est un groupe de musique et pas un film. Sorti en 92, qui a chopé 5 Césars, dont meilleure actrice pour Catherine Deneuve, comme me l'a signalé Cyril. J'ai demandé à la Lune. Et la culture ciné de Marie n'existe pas. Alors, Emily in Paris a donné envie aux Américains de visiter la capitale. Et c'est qu'ils n'ont pas encore vu Chimera. Chimera, c'est le court-métrage d'un pote. C'est un film muet qui raconte l'histoire d'un gars qui se transforme en chien. Mais il y a de super plans de Paris 19e dedans. Hein. La rue Crimée depuis le marché de la place des Fêtes. Une véritable carte postale. Après Paris cet été, je crois que c'est pas la bonne période. Puis tu ramènes quoi comme souvenir? Une petite tour Eiffel? Oui, bah oui, Marie. Je sais pas où je vais aller, moi. Le dernier film que j'ai vu au ciné, c'est Nous, les Leroy, de Florent Bernard. Qu'est-ce que j'ai chialé quand José Garcia congèle ses ovocytes. Non, attendez, c'est pas du tout le pitch. Après, le film se passe en Bourgogne, loin des JO et pas loin pour le bilan carbone, pas mal. Si j'y passe tout le mois d'août, je risque peut-être d'un peu m'emmerder, mais ça sera l'occasion de mater des films et d'enfin devenir cinéphile.
Ah bah oui, merci beaucoup Marie Dobreur. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen. Et si jamais vous parvenez à devenir cinéphile, Quentin et Cyril vous conseillent un bijou, un film.
Oui,
Opération Cornet Beef, hein, évidemment.
Mais oui, les Anges Gardiens aussi.
Non, ah, aussi les Anges Gardiens dans le deuxième temps. Merci encore Didier Arino de nous avoir permis de décrypter ce phénomène du surtourisme. Je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet. Et qu'est-ce que j'ai dit?
Surtourisme.
Ah oui, exactement. Ouais, parce que effectivement, on a pas assez parlé du surtourisme généré par le cinétourisme.
On a déjà fait une émission là-dessus.
Mais on a déjà fait une émission là-dessus.
Vous allez la réécouter.
Réécoutez-la en podcast, évidemment. Évidemment, n'oubliez pas. Merci encore Didier. Merci à tous. Manon, Quentin, Cyril, la fine équipe en régie, Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Bulou. À la technique, on salue Guillaume Roux. À la réalisation, Ghislain Fontana. Demain, programme chargé puisqu'on zoomera sur le blanc des cartes, un sujet aussi passionnant qu'il est incompréhensible à première vue. Et puis surtout, on racontera l'épopée de la Marianoche avec la maréchaussée et on essaiera de comprendre comment la perte de ses AirPods à Lourdes a pu entraîner par ricochet une amende de 90 euros sur la voie publique. Vous verrez, quand on lui laisse une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, elle vous explique tout ça très bien.
Et Zoom Zoom Zen en podcast, c'est quand vous voulez sur l'appli Radio France. Juste après les infos, suite des nuits d'Inter avec Very Good Trip.
On the floor, the blue Tejanos on, you keep. And the rest like holiday. The love on where she sang, dancing in a polka dot top. And when you say